Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé.
En Russie, au moins 137 personnes ont perdu la vie dans un massacre perpétré dans une salle de spectacle près de Moscou. 182 personnes aussi ont été blessées. Les autorités russes ont arrêté 11 personnes, dont les 4 assaillants. Mais qui est derrière cette attaque-là réellement? On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane.
Salut Alexandre, les images sont vraiment glaçantes. Ah, oui. Ça fait peur de voir de pareilles images. Ça fait deux fois que je m'expose à celle-ci, tu vois, puis j'étais pas préparé, j'avais pas prévu, puis à chaque fois, je fais comme...
C'est vrai que c'est terrible.
C'est pas de la fiction, c'est de la réalité. T'essaies d'imaginer d'être là, de te réveiller, de réaliser quelques secondes après avoir entendu ce qui pourrait être des pétards à mèche, réaliser qu'il y a quelqu'un qui te met en joue, qui tire sur toi. C'est une prise 2 sur ce que les Français ont vécu au Bataclan et sur les terrasses des cafés où ils ont été attaqués aussi à l'arme automatique. C'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle ici l'incident, c'est le Bataclan de Moscou, près de 140 morts. Et comme tu le soulignais bien, en ce moment, l'enjeu, au-delà de ce qu'il y a de la peine et des deuils pour tous ceux qui sont au premier rang, le pays en Russie qui est en deuil aujourd'hui comme il l'était hier, au-delà de ça, c'est qui est le commanditaire derrière ça? Qui a téléguidé les opérations? Il faut voir aussi, quand on remonte un peu le fil des événements, que les Américains et les Britanniques avaient mis en garde leurs ressortissants, mais en même temps parlé à Moscou en disant « Nous avons des informations crédibles qui nous permettent de croire qu'il y aurait peut-être des menaces d'attentats à Moscou. » C'était il y a un peu plus de 2 semaines. Alors, d'où venaient ces informations? Est-ce que les Américains et les Britanniques seront... je dirais, capable ou ouvert à l'idée de rendre compte de leurs sources d'information. Est-ce que c'est des agents infiltrés? Est-ce que c'est de l'interception de communication? Pour justement savoir qui est derrière tout ça, parce que ça aura un impact sur le cours des choses et potentiellement sur le cours du conflit entre la Russie et l'Ukraine, puisque les Russes, jusqu'à maintenant, ont laissé entendre qu'ils n'étaient pas parfaitement convaincu de ce que c'était l'État islamique qui était le commanditaire. Et je reviendrai sur toutes les mises en garde qu'on doit se faire à chaque fois que ce genre d'événement arrive, que ça soit pour ce que les Américains nous disent, que ça soit ce que nous disent les Russes ou encore les Européens, parce que de la fumée, sinon de la désinformation, dans un pareil contexte, c'est habituel. Puis je vais donner 4 exemples rapides qui serviront de mise en garde et des exemples très récents. Ma mémoire me ramène loin en arrière parce qu'il se trouve que j'étais correspondant aux États-Unis à Washington quand la première guerre du Golfe a commencé. Et au moment des opérations, les Américains avaient été saisis d'horreur quand ils avaient appris que les soldats de Saddam Hussein au Koweït étaient débarqués dans une maternité pour enlever les enfants des incubateurs. Puis il y avait le témoignage ému d'une jeune femme qui racontait ce qu'elle avait vu. Juste jusqu'à ce qu'on apprenne que la jeune femme émue était la fille de l'ambassadeur du Qatar et que c'était une opération entièrement montée de toutes pièces. Donc, je dis Qatar, Koweït, pardon. Donc, une opération qui était une opération d'intoxication totale. Et on a tous mordu à l'hameçon. Il y a quelques mois à peine, on parlait de dizaines de bébés décapités par le Hamas, d'enfants qui avaient été mis dans des fours à cuire. Or, l'essentiel de ces informations n'a jamais été prouvé, mais ça fait en sorte évidemment qu'on est indigné, qu'on réagit, et ça participe des réflexes de propagande naturelle et normale. Je dirais pas normale, mais naturelle de la part des protagonistes dans un pareil conflit ou dans ce genre de situation. On nous a collectivement enfumé à l'idée que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, c'est l'exemple qui est souvent cité. Or, Je pense que ceux qui témoignaient quand ils le faisaient aux Nations Unies et ailleurs savaient qu'il n'y avait pas de pareille preuve à leur disposition. Peut-être le soupçonnaient-ils, mais ils ne le savaient pas de façon certaine. On a menti pour aller au bout d'un objectif militaire. Donc aujourd'hui, est-ce que les Américains nous mentent? Est-ce que les Russes nous mentent? J'en sais strictement rien, mais je dis faisons toujours attention, gardons la tête froide, parce qu'il est facile de succomber au piège de la désinformation dans pareilles circonstances, avec entre autres les Américains qui hier étaient, et je les montre pas du doigt davantage que les Russes, mais qui sont montés, je dis hier, qui vendredi soir, samedi matin, tout de suite disaient, ça sent le coup de Daesh, ça ressemble étrangement à ça. Ils étaient comme très bien informés. Or, revenons au fait, effectivement, le modus operandi donne l'impression que c'est un attentat perpétré par l'État islamique, sa branche Khorasan, qu'on connaissait pas tellement, qui revendique en Afghanistan un certain nombre d'enjeux. C'est un groupe, en fait, une minorité qui est à la frontière du Turkménistan, de l'Afghanistan et de l'Iran, et qui donne aussi des difficultés du trouble aux autorités afghanes, aux talibans. Donc, il faut voir que dans la grande galaxie des mouvements islamistes, tous ne sont pas amis, on le sait, mais dans ce cas-ci, cette version de l'État islamique donne du fil à retordre aux autorités à Kaboul aussi. Alors, ça serait eux qui auraient revendiqué. C'est passé par une agence de presse qui, en général, relaie les informations de l'État islamique, Hamak. Donc, à ce jour, on dit, bon, Hamak dit le message officiel, porte le message officiel. Le modus operandi de l'opération militaire, ça ressemble étrangement, parce que c'est une opération militaire, ça ressemble étrangement à ce que l'État islamique a fait quand ils se sont attaqués à des civils en France, en Angleterre, ailleurs. En fait, c'est pas nouveau. Déterminé, pas très bien planifié. On sait qu'il y aurait des images qui permettent de démontrer qu'au minimum, un des quatre assaillants, je dis on sait, je fais attention toujours, mais on pense qu'il y a des images qui ont été faites en amont de l'attentat de vendredi qui montrent qu'on était allé repérer. Cette idée, par exemple, qu'on ait choisi d'intervenir, évidemment, quand il y avait un maximum de gens dans la salle de spectacle, mais aussi à un moment où toutes les routes de ceinture autour de Moscou sont congestionnées par la circulation, ce qui rend évidemment la progression des forces policière d'intervention plus difficile, ralentie. Donc, il y a un modus operandi, une efficacité dans le carnage qui ressemble à ce que Daesh, l'État islamique, est capable de faire et qu'il fait parce que ce sont des opérations militaires bien organisées. Là où c'est embêtant, et je fais attention parce qu'il y a plusieurs narratifs, alors il y a celui de Moscou qui dit « Nous, on sent que les Ukrainiens sont peut-être derrière ça. » En général, dans les attentats télécommandés par Daesh, il y a une résistance ou un affrontement entre les autorités et ceux qui livrent l'attentat. C'est arrivé, dans le cas du Bataclan, que certains des terroristes aient filé, mais souvent, ça se termine en une opération où il va y avoir des coups de feu échangés rapidement entre les forces de l'ordre et puis les terroristes. Dans ce cas-ci, ils choisissent apparemment de retourner dans le véhicule qu'ils avaient pris pour venir. Ok, des gens bien préparés qui choisissent de prendre une auto qui rapidement va être identifiée et aurait filé vers la frontière de l'Ukraine. Parce que c'est là qu'ils sont arrêtés, pas très, très loin, ce qui nous force à nous poser la question. Pourquoi pensait-il, pourquoi pouvait-il croire qu'il y avait là quelque chose comme un sanctuaire? Mais évidemment, il y a une question entre les deux qu'on doit se poser. Il y a les Ukrainiens d'un côté de la frontière, mais il y a le FSB et les forces russes de l'autre côté, parce que c'est une frontière archi-militarisée. Donc, comment ces quatre terroristes pouvaient imaginer que s'ils étaient attendus en Ukraine, ils arriveraient à se faufiler du côté russe de la frontière, qui, je le répète, est très, très, très militarisée. J'ai pas de réponse à ces questions. C'est très embêtant. On dit qu'ils ont été arrêtés pas très loin de là. Les quatre visages, les quatre tenues de ceux qui se sont présentés en cours hier donnent à penser que c'est ceux qui étaient effectivement près de la salle de spectacle ou dans la salle de spectacle qui avaient le doigt sur la gâchette. Là-dessus, en tout cas, il y a une certaine unanimité qui se dégage. Et les Russes qui disent, s'ils retournaient vers l'Ukraine, est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces gaillards et des commanditaires ukrainiens qui auraient choisi sous le maquillage d'un attentat terroriste islamique, une opération militaire pour punir les Russes. Alors, M. Poutine a fait gaffe de le dire de façon catégorique, mais on n'a pas beaucoup souligné la possibilité que cet attentat soit effectivement le fait de l'État islamique. On a davantage parlé de la responsabilité possible de l'Ukraine, avec des menaces très, très, très sérieuses. Pas de M. Poutine, mais de tous ces sicaires autour de lui qui ont dit « s'il fallait que nous allons aller chercher des responsables et les exterminer, les tuer ». Alors, dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la suite des choses va être beaucoup conditionnée par les conclusions, en tout cas publiques, et peut-être, à défaut d'être publiques à court terme, privées, discrètes, conclusions qui seront tirées par les Russes sur la réelle responsabilité. Mais je dis, faisons très attention à être convaincus de ce qu'un scénario est meilleur que l'autre à la lumière de ce que nous savons. Et dans le fond, c'est fragmentaire. Et je suis toujours tenté de dire, avant de s'emballer, donnons-nous une occasion de respirer. Puis c'est pas parce que c'est écrit dans le New York Times, c'est pas parce que c'est écrit dans le Figaro à Paris, puis c'est pas parce que c'est dit par Vladimir Poutine que c'est pour autant la vérité. Je suis malheureusement incapable de dire voici ce que c'est tentant. Hein? Dans nos métiers, on veut toujours avoir une explication cohérente, puis dans quelques secondes, on parlera de Gaza et de mes prédictions vendredi qui se sont pas avérées, puisque la Russie et la Chine ont voté contre la proposition de cesser le feu, de la résolution de cesser le feu qui est arrivée devant le Conseil de sécurité très tôt vendredi matin, proposé par les États-Unis, parce que c'est vrai que c'est difficile d'anticiper, surtout que le diable est toujours dans les détails. C'était vrai du texte qui a été remis vendredi, et c'est vrai en ce moment, non pas d'un texte qui circulerait officiellement quelque part, puisque justement, l'information va être masquée, elle va être à trouver au compte-gouttes. Puis éventuellement, peut-être, on sera capable de se faire une idée réelle de ce qui s'est passé. Mais c'est un prétexte qui peut être instrumentalisé, pas qui peut, qui sera instrumentalisé par des acteurs politiques qui ont toutes sortes d'agendas et qui voudront faire dire à ce qui s'est passé là ce qui correspond, pardonne l'expression, mais ce qui correspond au narratif qu'ils veulent mettre de l'avant. Ouais. Donc, soyons plus intelligents et respirons par le nez avant de tirer des conclusions.
Mais en deux respirations, Stéphane, tu parlais de tes prédictions, mais c'est vrai qu'on y croyait, on pensait que ça y était. Anthony Blinken, qui avait multiplié notamment les rencontres à l'étranger, à l'international, on sentait que les choses s'accéléraient. Cette résolution-là a été bloquée. Quelle est la suite des choses, Stéphane? Est-ce qu'on aura un réel cessez-le-feu, à un moment donné?
Peut-être que le jour où il y aura un cessez-le-feu, c'est qu'il y aura plus grand-chose à sauver. Il est très possible qu'on parle, on parle, on parle, et que le jour où Américains et Israéliens, puisque manifestement, je ne parlerai pas de collusion, mais il y a une certaine forme d'harmonie opérationnelle, même si c'est vrai que publiquement, cette administration se pince le nez, a clairement dit qu'ils étaient excédés par cette campagne militaire, qu'il y avait des lignes à ne pas franchir, et pourtant à chaque fois ces mêmes lignes sont franchies par les Israéliens parce qu'ils savent que Washington, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ne fera rien qui sera contraire à leurs intérêts stratégiques, c'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas de leur livrer des armes, on n'arrêtera pas de leur livrer de l'aide économique, et c'est avec ça qu'on fait la guerre, et que Israël est prêt à être isolé essentiellement partout sur la scène internationale, tant et aussi longtemps que les alliés essentiels, puis je pourrais dire l'allié essentiel, est avec eux, c'est-à-dire les États-Unis. Là où on a péché, là où j'ai péché, c'est en présumant qu'une résolution de cessez-le-feu serait suffisamment contraignante pour que Russes et Chinois disent ben on a enfin trouvé le compromis idéal. Il faut voir que même l'Algérie a voté contre et qu'a priori c'est un pays qui était plutôt favorable à ce qu'on trouve une solution rapidement pour imposer un cessez-le-feu. On pourrait voir qu'il y a un calcul politique, les Russes et Chinois qui veulent pas être d'accord avec les Américains, ça se peut, mais ça serait une réponse un peu courte. Je reviens à ce que le diable est dans les détails. Quand le texte de la résolution américaine a circulé, on a pu comprendre effectivement que c'était pas terriblement contraignant et que ça servait aussi en partie de cache-sexe politique aux Américains qui, parce qu'ils avaient voté trois fois contre un cessez-le-feu sur la place publique, à l'étranger partout et dans le sud global, avaient l'air l'air d'être effectivement les facilitateurs de ce que certains appellent un génocide à Gaza. C'est pas l'expression que j'emploierai, je laisserai à tous le soin de choisir les mots, mais c'est de plus en plus l'expression employée. J'étais avec le grand patron du Parti communiste français la semaine dernière, qui est un acteur politique important en France. J'aurai peut-être un extrait d'ailleurs à présenter la semaine prochaine, mais qui lui parlait effectivement de dérive génocidaire sans aucune forme de réserve. Sans pour autant dire le Hamas est au-dessus de toute responsabilité, loin s'en faut, et même qu'il pense que le Hamas n'est plus un interlocuteur crédible si on veut arriver à une solution de paix là-bas. Il faudra voir qui sera cet interlocuteur crédible, parce qu'ils ont tous été à tour de rôle discrédités. Mais revenons sur la question du cessez-le-feu. Je crains que ça ne soit pas demain matin et qu'on va continuer à en parler beaucoup. Le ministre israélien de la Défense est à Washington ce matin pour discuter avec ses homologues. Il se fera sans doute dire des choses qui seront déplaisantes, mais à la fin de chacun des entretiens, comme M. Biden l'a fait quand il a menacé M. Netanyahou, on lui dira, écoutez, on serait très déçus, on serait vraiment pas contents, mais soyez rassurés, en tout temps, on va continuer à vous livrer la marchandise. Alors, lui, il fait ce qu'il a à faire, sa tournée, puis il va retourner chez lui et faire ce qu'il a à faire aussi comme ministre de la Défense, qui, dans ses déclarations, tout le moins, a toujours montré qu'il serait implacable et jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et je ne sais pas quand et comment les Israéliens seront satisfaits dans cette affaire-là, parce qu'il parle d'éradiquer le Hamas. Or, je ne sais pas comment on pourra arriver à la conclusion qu'on a éradiqué le Hamas, qui continue à communiquer avec ses troupes, qui continue à être capable de s'organiser. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile, mais ils n'ont pas été parfaitement décapités. Fait que ça pourrait être très, très long avant qu'on soit capable d'arriver à tirer la conclusion que c'est fini, on a gagné. Je ne sais pas quand et comment les Israéliens le feront, mais demain matin, en tout cas, je n'y crois pas.
Aux États-Unis, c'est une journée importante pour président Trump. Est-ce qu'on va assister,
tous
Stéphane?
Les jours sont
oui, mais aujourd'hui, c'est particulièrement vrai. Est-ce qu'on va assister à la saisie de ses actifs par la justice?
Alors, je ne ferai pas de moi un Stéphane Bureau comme vendredi. Je ne te ferai pas
une prédiction
à tout grain. mais c'est le risque qu'on prend quand on se livre à ce genre de jeu d'interprétation de l'information, puis qu'on essaie de voir ce que ça pourra signifier dans les heures qui suivent. Chose certaine, la procureure, Letitia James, a en ce moment l'autorité, ou l'aura plus tard aujourd'hui, pour saisir des actifs de M. Trump à hauteur de 454 millions. Est-ce qu'elle va choisir de faire ça progressivement? Il faut voir que les avocats de M. Trump ont demandé au juge de se contenter de moins, mais il n'a pas rendu de décision. Le juge n'était pas tenu de la rendre avant aujourd'hui. Il pourrait choisir dans deux semaines de dire, écoute, finalement, on va se contenter des 100 millions que vous nous avez proposés. Parce que c'est de l'argent que M. Trump doit garantir pendant qu'on attend son appel. C'est-à-dire que la condamnation n'est pas exécutoire, mais il faut garantir que la somme, elle, est disponible s'il fallait qu'au bout de l'appel, ben on donne encore raison à Mme James et donc au procureur new-yorkais. Il n'y a pas cette somme, dit-il, quoique vendredi, on apprenait qu'il allait être plus riche de 3 milliards et demi de dollars, puisque Truth Social, son réseau social, sera public ou ira vers les marchés publics très bientôt. Mais il peut pas vendre ses actions, ne pourra pas vendre ses actions avant 6 mois. Est-ce que ça pourrait servir de collatéral plus liquide pour un éventuel assureur qui serait prêt à prendre ses actions, ses éventuelles actions, en collatéral pour payer la caution? Possible, peut-être qu'il y a une surprise, quelque chose qui va sortir du chapeau de M. Trump aujourd'hui, mais il est en cours pour d'abord, évidemment, voir si cette affaire-là peut aboutir de son point de vue favorablement, mais aussi et surtout pour plaider le prolongement du délai dans l'affaire Stormy Daniels. Il y a de nouvelles pièces qui ont été déposées au dossier, on s'en rappelle, le procureur, un autre, M. Bragg, est arrivé avec des nouveaux éléments pour ajouter à sa cause. Puis les avocats ont dit, ben là, c'est parce qu'il faudrait qu'on lise ces milliers de pages avant de se présenter en cours si on veut être efficace. Le juge, à ce moment-là, avait donné quelques semaines, je pense que c'est 15 avril le délai, et M. Trump continue à maintenir que ça prend plus de temps, que c'est un minimum de 90 jours, et ça se plaide aujourd'hui. Ça ne veut pas dire non plus que le juge va rendre sur le banc une décision. On devrait le savoir cette semaine. L'objectif, gagner du temps, jouer l'horloge, faire en sorte que ça soit le plus tard possible, parce que de tous les autres procès, il y a de moins en moins de chances qu'ils soient complétés avant la fin des élections présidentielles. Donc, pour ceux qui espèrent, démocrates ou autres, que M. Trump puisse être reconnu coupable de quelque chose, ça va peut-être se passer dans ce procès à New York. Or, s'il gagne 3 mois, ben, c'est d'autant plus de chances pour lui de faire en sorte qu'un verdict de culpabilité soit pas prononcé avant les élections présidentielles.
Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt.
Est-ce que c'est pas passionnant, tout ça?
Ah oui, vraiment. J'ai déjà hâte au prochain épisode.
Demain matin.
Parfait. C'est un rendez-vous. Bye.
Salut.